carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Cézannien dans l'âme, Pierre-Édouard trouve dans le dessin quelque chose qu'il ne trouve pas dans la sculpture. Un espace presque infini, un espace presque irrationnel. Le regard introspectif de l'artiste sur sa façon d'aborder ses œuvres dessinées, ses œuvres peintes, gravées ou sculptées. On aborde l'œuvre, semble-t-il, par sa nature intérieure et sa vision, nous dit l'artiste. Le sculpteur Pierre-Édouard a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2008 et a été reçu le 10 mars 2010 au sein de l'Académie sous la coupole de l'Institut de France. Né en 1959 à Paris, peintre, dessinateur, graveur, pastelliste, il se consacre principalement depuis les années 90 à la sculpture. Pierre-Édouard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation pour parler cette fois du dessin et non de sculpture aujourd'hui à Canal Académie. Comment vous définissez-vous comme artiste ? On vous présente comme sculpteur, mais est-ce que c'est le premier mot qui vous viendrait à l'esprit pour vous définir ?
Alors, c'est un problème pas simple. Parce qu'effectivement, je ne sais pas trop ce que je suis. Je pense que si je suis quelque chose, je pense que ce serait dessinateur, justement. Je pense que j'aborde les choses par le dessin, principalement. Je ne pense pas être quelqu'un qui aborde les choses par la peinture, ni par la couleur. Je pense que j'aborde les choses, que ma nature première aborde les choses par le dessin. Et je crois que dans la sculpture, j'aborde les choses par le dessin. Je ne pense pas que je suis un sculpteur qui aborde les choses par la matière, comme il y a des sculpteurs qui abordent par la matière et la matière les conduit quelque part. Moi, la matière ne me conduit pas. La matière obéit. Enfin, je souhaite qu'elle obéisse plutôt. En sculpture, pour moi, la matière est comme un crayon. C'est-à-dire, elle doit répondre exactement à ce que je veux faire. Elle doit être comme un outil malléable, flexible, que je peux effacer, à qui je peux faire tout ce que je veux. Et quel que soit l'outil que j'utilise, que ce soit dans la sculpture, dans la gravure, dans le dessin, j'ai besoin de ce même outil. En fait, c'est toujours le même outil dont j'ai besoin. C'est une sorte d'outil qui va me faire des clairs, des sombres, des plans qui s'articulent et que je vais pouvoir effacer à ma guise, parce que je travaille encore beaucoup plus en détruisant qu'en construisant. Donc, c'est un outil de dessin, tout ça. Et tout ça, pour moi, c'est quelque part le dessin. Ce qu'il y a, c'est que la sculpture, elle me permet de dessiner en trois dimensions. Mais je pense que je l'aborde vraiment comme un dessin. Donc, pour vous répondre à votre question, il me semble que ma nature première est quand même le dessin.
Comment vous expliqueriez à un enfant qui vous demande qu'est-ce que c'est dessiner par rapport à sculpter ?
Ah bah, moi, je peux vous dire qu'est-ce que c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que c'est le dessin. Moi, je sais que pour moi, le dessin, c'est articuler des plans dans l'espace selon des proportions. C'est ça.
Et sculpter ?
C'est pareil.
C'est la même chose.
C'est exactement pareil. Sauf qu'avec le dessin, on le fait en deux dimensions. Avec la sculpture, en trois. Mais c'est exactement le même...
Pour vous, c'est un outil similaire pour arriver à la vision qui est la vôtre, ce que vous voulez faire.
Exactement. Et pour moi, le dessin, c'est... On articule des clairs et des sombres.
Comme en sculpture. Pourtant, on a l'impression que c'est pas
possible. C'est-à-dire qu'en sculpture, vous pourriez trouver des sculpteurs qui articulent des formes.
Oui.
Moi, j'articule des clairs et des sombres. C'est pour ça que je vous dis aussi que je l'aborde par le dessin, quelque part. Parce que pour moi, la sculpture, c'est des clairs et des sombres. Donc, c'est du dessin, quelque part.
Pierre-Édouard, vous avez commencé par peindre et vous avez même hésité à sculpter. Pourquoi ?
Oui, j'avais dit à un moment que la sculpture, j'ai longtemps hésité à faire de la sculpture parce que j'étais rebuté par l'aspect matériel incarné de la forme sculptée, que c'était d'ailleurs une erreur de ma part parce que c'est pas plus incarné qu'un dessin. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup dans le dessin cette immatérialité. Et puis, il y a une chose qui compte beaucoup. Alors là, bon, moi, je peux vous parler que du dessin tel que moi, je le vis le dessin. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le dessin. Le dessin, de toute manière, personne ne sait ce que c'est. Hein. Pour moi, le dessin, il y a une chose qui est très importante. C'est que, si vous voulez, le papier, la page blanche, c'est déjà un espace, une sorte d'espace infini comme ça. Et comme dans le dessin, vous ne couvrez pas la page. C'est-à-dire que vous tracez des choses, vous tracez des signes, mais vous ne peignez pas dessus, vous ne couvrez pas la luminosité du papier. Ce qui fait que tout ce que vous mettez sur la feuille de papier, c'est un peu comme de la poussière, si vous voulez. Ce sont des poussières. Le dessin, c'est des poussières qui se mettent sur le papier, qui vont, qui viennent. Mais vous avez en permanence, sous ces poussières, sous ces noirs, sous ces gris, vous avez cette lumière du papier qui crée une sorte de continuum. Donc vous avez une continuité de la lumière qui est à l'arrière-plan derrière. Et vos clairs et vos sombres masquent cette lumière qui est dessous. Ce sont des sortes d'écrans. Et pour moi, je sais que c'est une chose très importante, ce phénomène, parce que je suis dans le... Si vous voulez, chaque fois que j'essaye de couvrir cette lumière pour mettre, mettons, un clair, là où il devrait y avoir un clair, tout d'un coup, tout mon espace est court-circuité et n'a plus de sens, parce que j'ai besoin que cette luminosité du fond soit là d'un bout à l'autre de l'œuvre, si vous voulez, et que les clairs et les sombres soient comme des vagues qui viennent, qui se posent dessus, qui naissent, qui meurent, qui... J'ai besoin que ça soit comme une sorte de mer qui bouge sans arrêt, mais qui est fluctuant, qui n'est pas figé. Et pour moi, la forme, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens beaucoup plus dessinateur que peintre, c'est que la forme peinte, la forme incarnée par la peinture, c'est-à-dire modelée par la pâte, par la couleur, il y a une incarnation, il y a quelque chose qui est figé pour moi là-dedans, et j'ai besoin de cette sorte de mouvement qui ne cesse pas de se fluidifier comme ça, de bouger... qu'a le dessin sur le papier. Dans ce sens, je me sens dessinateur.
Est-ce que ça veut dire que le dessin apporte plus de liberté dans l'immédiateté ?
Non, c'est pareil.
C'est pareil.
Exactement pareil. Enfin, ça dépend des gens et ça dépend de... Les paramètres sont tellement innombrables que l'immédiateté, on la trouve là où on en vit.
Je veux dire, est-ce que les peintres sont sensibles à une approche de la lumière particulière et puis les sculpteurs à une autre et les dessinateurs à encore une autre recherche de la lumière. Mais vous avez l'air de dire que justement, pour vous, c'est pas le problème.
Non, moi je crois pas, de toute manière, je crois pas à la délimitation, les peintres, les sculpteurs et les dessinateurs. Je pense que le monde plastique, il est un, avec des applications diverses et des tempéraments différents qui sont plus portés à une chose qu'une autre. Mais le phénomène plastique, je pense qu'il est toujours exactement... C'est toujours ce phénomène plastique, c'est toujours... Et la lumière, chacun doit l'inventer comme il peut. Et l'inventer dans le dessin ou dans la peinture, c'est pareil. Sauf que moi, je vous dis, il y a cette grande différence que pour moi, j'ai besoin d'avoir cet espace blanc, enfin cet espace de lumière, a priori, avant même toute chose. Et que les choses... Et pour moi, cet espace blanc de la feuille, il est identique à l'espace, c'est-à-dire au vide dans lequel nous vivons, pour la sculpture. C'est le même espace pour moi, c'est le vide premier. Et ce vide premier, je vais le meubler tantôt par la forme sculptée en trois dimensions, tantôt sur la page de dessin,
par
mes petits clairs et mes petits sombres. Pas par le trait, parce
que
j'aborde
pas. Non, justement, c'est un mot que vous n'avez pas prononcé.
Mais non, parce que moi, je suis constitué de telle sorte que je suis incapable d'aborder une forme par le trait. Parce que, incapable, mais plus qu'incapable même. Je sais même pas ce que c'est. Ça n'a pas de sens. C'est peut-être parce que je suis cézannien dans l'âme, mais pour moi, tout ce que je cherche à faire est fait de plans. Et évidemment, le plan, là où il s'arrête, il y aura peut-être une ligne. Mais en tout cas, je n'aborde jamais rien par une ligne. J'en suis incapable. Je les vois même pas.
Je disais ça parce que pour nous, comme un auditeur, on va dire, comme un mortel, le dessin, c'est un trait. Parce qu'on a cette lecture-là.
Mais bien sûr, ça peut l'être et ça peut être magnifique.
Et c'est pas votre...
C'est pas ma manière de l'aborder. Je le ressens pas comme ça. Pour moi, rien ne commence par la ligne.
Mais par l'espace.
Oui, pour moi, tout finit par la ligne. Mais rien ne commence par la ligne. C'est-à-dire que j'aspire au bout du compte, si vous voulez, une fois toutes les choses mises en place, qu'il y ait peut-être à un endroit des lignes, mais elles seront le résultat de tout mon travail. Je suis incapable de les mettre au début.
D'où vient cette façon d'aborder le dessin, de vos formations, disons, de vos jeunes années familial ?
Non. C'est constitutionnel, ça. C'est des choses constitutionnelles.
C'est écriture propre ?
C'est même pas une écriture. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. On voit Et on aborde le monde d'une manière qui est propre.
Et vous, ça serait par ces clairs et ces obscurs, par la lumière et l'espace.
Moi,
je résume trop.
Je dirais même que ce serait par les plans. Pour moi, c'est par les plans, par l'articulation des plans. Alors effectivement, c'est très sculptural comme principe. Mais bon, c'est pas un hasard non plus si je fais la sculpture. Mais c'est vrai que... Et vous dire d'où ça vient, j'en sais rien. C'est parce que ce que j'ai envie de faire ressemble à ça. C'est ça, l'œuvre dont je rêverais, elle est comme ça. Elle n'est pas avec des lignes aussi. C'est sans doute ça.
Dans vos dessins, on retrouve la thématique d'Ève.
Oui.
Quels échos y a-t-il pour vous entre justement ces grands dessins que vous avez faits, parce qu'il y a un format très impressionnant, et puis les sculptures? Vous passez de l'un à l'autre? Quelle serait votre pratique?
Il y a une chose dont on a une fois un peu parlé, mais qui est très importante pour moi là-dedans, c'est que je vous disais que la sculpture, elle a une sorte d'émanation, elle a une sorte d'aura autour d'elle, et elle sécrète à elle-même une sorte d'espace qui est le sien, qui va jusqu'à une certaine dimension, au-delà d'elle-même, mais qui s'arrête à un endroit. Alors qu'il y a dans le dessin une chose que je ne peux pas trouver, moi, dans la sculpture, c'est un espace absolument presque infini. C'est-à-dire que l'espace du dessin, pour moi, il peut couvrir des dimensions gigantesques. Je prends par exemple un exemple tout bête. Vous avez derrière la Joconde le paysage. Ce paysage, il vous pousse 100 km plus loin. Aucune sculpture ne peut faire ça. Et si vous voulez, cet espace-là qui fait que tout d'un coup, on part très loin dans l'espace, même si ce n'est pas représenté, même si ce n'est pas un paysage, même si ce n'est pas quelque chose de conceptualisable, on a cette possibilité dans le dessin, dans la peinture aussi évidemment, d'avoir un espace vraiment énorme. Et quelque part, le dessin, même s'il est plus restreint, il est en même temps beaucoup plus énorme que la sculpture. Rien ne peut être plus grand que l'espace du dessin.
Peut-être parce que cet espace conduit plus vite au rêve ou à l'imaginaire.
Mais parce qu'il contient dans ces deux dimensions, il est schématique, c'est-à-dire qu'il est abstrait, il est métaphorique, il n'est pas réel, il n'a pas de référent. L'espace du dessin, et c'est pas qu'il s'apparente au rêve, c'est que...
Non, mais cet espace
c'est presque
final, j'allais dire...
Oui, mais c'est presque mathématique, si vous voulez. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense par exemple au... Si on prend les peintures de noir de la chapelle de Rothko, et vous regardez ces peintures noires, l'espace, la profondeur de l'espace qu'il y a dans ces tableaux partent très loin. Ça part très loin, encore plus loin que le paysage de la Joconde. Hein? Et cet espace-là de la peinture et du dessin, pour moi, il est très important. Donc je tiens beaucoup au dessin, moi, pour ça aussi. Parce qu'il y a cette possibilité de rentrer dans un espace tout à fait, je dirais, qui est presque irrationnel, qui est complètement étonnant. Et alors, par la problématique des proportions, parce que ça, c'est la grande chose, moi, qui m'intéresse dans le dessin, ce problème des espaces et de l'infinité des espaces est accentué. Toutes ces données jouent les unes avec les autres. Et effectivement, de par la proportion, on peut tout d'un coup donner dans une sorte d'espace étonnant. Mais c'est difficile à expliquer, mon histoire.
Oh, vous en parlez très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu du côté pratique? Tout à l'heure, je vous demandais quand est-ce que vous passiez, on va dire, du dessin à la sculpture. Vous expliquiez que, justement...
Je fais tout le temps petit peu les deux.
Vous faites les deux.
C'est-à-dire que pour moi, le dessin, c'est aussi beaucoup la gravure. Je fais beaucoup de gravures. En ce moment, je suis en train de faire toute une série pour faire un livre de gravures. Et donc, la gravure, c'est du dessin. Hein. Y a pas...
Et vous dessinez, je disais tout à l'heure, sur des grands formats, très grands formats.
Bah, ils ne sont pas si grands que ça. Mais enfin,
oh, quand même
grands, ouais. Mais c'est parti, tout ça est parti. Les grands dessins dont vous parlez, là, sont partis de tout petits dessins. C'est-à-dire que je les ai d'abord faits à un format minuscule. C'est-à-dire que je les ai trouvés, si vous voulez.
D'accord.
Je les ai cherchés à un format minuscule. Parce que justement, comme la monumentalité, l'énormité de l'espace, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, il n'y a pas mieux ni plus approprié que le tout petit pour trouver les choses, quand on veut être très grand.
Je n'avais pas pensé que vous pensiez comme ça, partir du tout petit.
Je pense qu'il n'y a pas que moi qui pense comme ça, si vous voulez. Je pense que c'est une donnée plastique fondamentale. Vous savez, Moore, quand il faisait des sculptures monumentales, il les faisait la maquette,
oui,
minuscule,
les maquettes sont
qui
petites,
tenait dans sa main.
Mais minuscule, je ne pensais pas, d'accord.
Elles étaient grandes,
d'accord.
Elles tenaient dans sa main, pour faire des trucs à 3 mètres de haut. Et je pense qu'il y a un principe comme ça, je pense que c'est même une des lois plastiques, c'est que ce que vous faites en tout petit, vous pouvez le faire en immense.
Et on peut, effectivement, on a le regard qui peut balayer
parce que,
tout.
Parce qu'en tout petit, vous êtes hors réalisme. Vous êtes hors référent au réel et en immense aussi. Et dans les deux cas, enfin, c'est difficile, c'est un truc qu'on peut que constater, c'est que le tout petit, souvent, s'apparente à l'immense. Le moyen, c'est un autre monde. C'est un autre monde, le moyen. Le moyen, il est proche de notre vision.
Il est plus proche du réel, de la réalité.
Oui, il est plus proche de ce que, même sans parler de notre vision, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut... Il y a quelque chose de commun avec nous, dans le moyen format. Dans le tout petit et dans le très grand, non. C'est autre chose.
Et vous dessinez avec quoi ? C'est de l'encre, c'est
bah écoutez,
de la mine,
moi j'ai dessiné,
vous avez des préférences.
J'ai dessiné énormément au crayon, j'ai dessiné énormément au fusain. La plupart de mes dessins, ils ont été faits comme ça, tout bêtement au fusain ou au crayon. Et depuis quelques années, j'emploie l'encre parce que j'ai découvert que la trace de pinceau était plus propice à l'agencement des plans pour moi. Donc maintenant, je travaille entièrement, parce que c'est vrai, finalement, si on y pense, un fusain, ça fait un trait, alors qu'un pinceau, ça fait une tache. Donc, quelque part, l'agencement des plans, je le trouve plus facilement par une succession de tâches.
D'accord, et ça, c'est...
Donc, maintenant, je travaille pratiquement que à l'encre et je travaille plus du tout au fusain.
À l'encre et au pinceau.
À l'encre, un peu à la tempéra, un peu à la gouache, un mélange de toutes ces choses. Mais en tout cas, c'est de la peinture à l'eau et de l'encre.
D'accord.
Et je préfère. Mais tout ça, réversible. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin que tout soit effaçable à tout moment.
Et vous revenez sur le même papier, là ?
Je l'efface, j'enlève tout.
D'accord.
J'enlève tout.
Et il y a un choix particulier du papier ? Ce papier, c'est quelque chose de... C'est le matériau ?
Il faut que ce soit un papier qui permette d'effacer ce que je vais mettre dessus. Donc, il faut un papier assez solide qui va résister.
D'accord, vous n'êtes pas un obsédé d'un papier particulier ?
Non. Non, mais il faut que ça tienne. Ça, c'est mon impératif pour toute chose. Il faut que je puisse tout enlever à tout moment. Si vous voulez, vous avez des artistes, et j'en connais beaucoup... Et je comprends tout à fait leur point de vue, qui ont besoin que ça soit définitif ce qu'ils font et qu'ils ne puissent plus retrancher, parce qu'il y a une sorte d'immédiateté qui se crée à ce moment-là.
Une forme parfaite qu'ils semblent avoir trouvée et qu'ils veulent garder.
On ne peut pas changer, et quand on ne peut pas changer, on travaille différemment, c'est vrai.
Ça, c'est si on travaille à langue de Chine ou des choses comme ça.
Oui, voilà. Et qui trouvent un bienfait là-dedans. Moi, c'est tout simple, c'est que je ne peux pas, parce que si je sais que je ne peux pas gommer, je vais même pas, ça m'intéressera même pas de faire le dessin, je voudrais même pas le faire. Parce que moi, je sais que je ne vais construire qu'en le défaisant. C'est comme ça.
Pierre-Édouard, quand vous abordez le dessin, est-ce que vous pensez à utiliser juste une ou deux couleurs, ou est-ce que vous n'y pensez pas du tout ? Comment vous abordez la couleur dans le dessin ?
Ben ça, c'est un problème très vaste et très compliqué.
C'est pas le problème du dessin, c'est le problème de la peinture. Et si vous voulez, moi, c'est une chose à laquelle je me suis toujours... toute ma vie, je suis retombé sur les mêmes problèmes, à savoir que, si vous voulez, l'organisation interne, la structure que je cherche à établir, petit à petit, par le dessin, si j'introduis une couleur, une seule couleur, ou plusieurs, mais même une seule... Si vous voulez, cette couleur, j'ai observé que je n'arrivais pas à lui donner sa place comme couleur et comme valeur. C'est-à-dire que je la perçois comme valeur. Je l'intègre dans l'œuvre par sa valeur et je me rends compte jamais par sa couleur. Ce qui fait que...
Et sa valeur, c'est quoi ?
La valeur, c'est le degré de noir,
de clair ou de sombre.
De quelque chose qu'on place à un endroit du tableau. Donc je l'évalue toujours, j'organise le tableau par sa valeur. Et si je mets un ton, il va y avoir un court-circuit logique pour moi, parce que je ne vais pas voir, je ne vais plus, à partir du moment où je vais mettre ce ton, je ne vais plus voir sa valeur. C'est-à-dire que pour moi, finalement, et c'est très intéressant...
Et vous allez chercher d'autres valeurs dans ce ton ? Vous allez
tenter ? Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, si vous voulez, l'organisation se fait... par les valeurs. Si j'introduis la couleur va court-circuiter les valeurs. Depuis que j'ai 20 ans, je retombe immanquablement sur ce système. Alors, ce qui est très curieux, parce que c'est... Je me suis aperçu qu'en fait, ce sont des systèmes. C'est-à-dire que quand j'avais, quand j'avais 15-16 ans, j'ai fait beaucoup des peintures abstraites où j'employais les couleurs. Je n'avais aucun problème pour employer les couleurs. Je n'ai de problème pour employer la couleur qu'à partir du moment où je me coltine au problème qui est le mien, celui que je veux aborder, à savoir l'élaboration d'une forme par des plans dans l'espace. Et quand je fais ça, si j'introduis une couleur, toute mon élaboration fout le camp. Alors je ne sais pas pourquoi, je l'ai constaté. Alors c'est drôle parce que j'en ai parlé l'autre jour avec un ami peintre qui me disait que, à son sens, il était rigoureusement impossible, mais dans toute l'histoire de l'art et dans toute peinture, à la fois de placer le ton et la valeur. C'est-à-dire que soit il y a des artistes qui arrivent à placer le ton et qui à ce moment-là créent un espace qui trouve sa logique par les tons et par cela même par les valeurs aussi. Parce que si on organise les tons et que les tons sont justes, les valeurs sont justes aussi. Mais que si on organise les choses par les valeurs, il est absolument et rigoureusement impossible de faire venir, de rajouter à cela le ton. Parce qu'il n'est pas, quelque part, il n'est pas compris dans le système. Ce sont presque des systèmes. J'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose comme un système. Et je sais que moi, je me heurte toujours à ça. Alors, évidemment, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir ajouter le ton, si vous voulez, parce que le ton crée la lumière. Je veux dire, c'est une chose tout à fait extraordinaire, le ton. Mais je me rends compte, si vous voulez, que de là où je suis, le ton est toujours en trop. Et c'est drôle parce que, par exemple, j'ai vu que Giacometti, dans un de ses interviews, il dit que quand il met un ton, au début, il mettait des tons dans ses tableaux. Et quand il met un ton, ce ton prend la place d'un gris. Et il est obligé de le supprimer. Et c'est marrant parce que c'est vraiment... Moi, je ressens exactement ça. Si je mets un ton, il prend la place logique d'un gris. C'est-à-dire que là où, de par la logique plastique, il y aurait dû y avoir tel gris, on se dit, mais pourquoi y aurait-il un ton là ? Et c'est comme ça. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je pense que c'est lié à des sortes de systèmes qui s'excluent parce que leur but n'est pas le même ou que... Oui, on sait ça, on poursuit des choses différentes qui n'ont... Et je suis, c'est vrai en même temps que je ne suis pas dans quelque chose où j'ai besoin du ton. Au fond, j'en ai pas besoin. J'aime parce que j'aime la peinture, parce que c'est formidable de pouvoir mettre une lumière colorée, mais en réalité, je n'ai pas besoin du ton. Il faut bien que je me rende à l'évidence. Donc voilà ce que je peux dire.
Là encore, c'est une approche comme en sculpture qui domine.
Ben oui, c'est-à-dire que je suis bien obligé de finir par me dire que je dois quelque part être sculpteur.
Voilà.
Oui. Bien que bizarrement, vous savez, bizarrement, je me ressens pas non plus. Ça me viendrait pas à l'idée de dire je suis sculpteur parce que j'ai quand même fait beaucoup de peinture. Que pour moi, la peinture, elle est aussi emballante, sinon plus que la sculpture, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que j'aime en peinture que de choses que j'aime en sculpture. Mais bon, je pense que ma façon d'aborder est quand même visiblement très proche de la sculpture. Enfin, d'une certaine manière d'aborder la sculpture, parce qu'il y en a 100 000. C'est vrai en même temps que je me sens pas, vous savez, je me sens pas du tout sculpteur. Je pense à César, par exemple. César, quand il parlait de la sculpture, il parlait toujours de la matière. Toujours. Et pour lui, c'était ça son... Il avait ce rapport avec la matière. Et moi, j'en ai aucun. Aucun. Et ça m'intéresse pas. Donc c'est drôle, on dit sculpture, mais ça veut rien dire, quoi. C'est des choses très différentes.
Je trouvais très intéressant que vous ayez montré qu'en fait, dans ce que vous venez de dire, que ce soit le dessin, la peinture ou la sculpture, ou la gravure même, vous abordez ça
appareil.
Par l'espace.
Oui, voilà. Toujours par l'espace.
Par l'espace, par la lumière, par l'éclair-obscur, là, par ce que, oui. Enfin, je ne sais pas comment oui. Dire exactement.
Et par la proportion.
Par la proportion.
Ouais.
Et du coup, ça montre que habituellement, la façon dont nous catégorise les arts ou les artistes en peintres, graveurs, etc., ça n'a pas de sens ou beaucoup moins qu'autrefois ou pas du tout.
Je crois que ça n'en a pas.
Ça n'en a. En tout cas, vous en faites la démonstration.
Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi.
Parfait.
Pour moi, ça n'a pas de sens. Vous avez des peintres dans l'histoire de l'art qui sont des dessinateurs. Des peintres qui sont des peintres qui sont des sculpteurs. Vous avez des sculpteurs qui sont des peintres aussi. Et vous avez des sculpteurs qui sont des sculpteurs. C'est vrai que c'est très difficile de définir tout ça. Et Picasso, il a tout fait parce qu'il pouvait tout faire. De l'endroit où il était, il pouvait tout faire. Il était tout cela. Pour moi, une sculpture de Picasso n'est pas quelque chose de mineur par rapport à sa peinture. On pourrait presque dire l'inverse. On pourrait dire qu'il a été sculpteur, un très grand sculpteur, et qu'il a peint. Comme on pourrait dire qu'il a été peint et qu'il a sculpté. Mais je veux dire, c'est vraiment... Ça n'a pas grand sens, quoi.
Est-ce que c'est débile de vous demander si une œuvre, un dessin d'un artiste ou du passé ou du présent qui vous fait beaucoup vibrer, quelque chose comme un dessin dans lequel vous nous feriez rentrer?
Ah non, c'est pas débile. Un des dessins que je trouve le plus extraordinaire, par exemple, c'est les dessins de la fin de Michel-Ange. Vous savez, avec le crucifix et les deux personnages de chaque côté. Il a fait 3 dessins comme ça. Je trouve que c'est un sommet du dessin, cette série. Ça ne m'est pas tout à fait.
Vous auriez nous dire pourquoi ?
Je peux essayer. Ben parce que si vous voulez, pour moi, il y a dans ces dessins une chose qui est une des choses les plus importantes pour moi. C'est l'absolu ressenti dans les proportions. C'est-à-dire que son mode, son véritable mode, son médium, ce par quoi il fait passer l'âme, c'est vraiment par le système des proportions, qui est ce qui m'intéresse, moi, dans l'art. Et son système des proportions, à la fin, est tellement pointu, tellement aigu, si vous voulez, qu'il n'y a presque rien, mais ce sont des dessins qui ont un sens presque parfait, comme ça, de la manière dont tous les espaces sont pensés les uns par rapport aux autres. C'est une sorte de génie des proportions. Vous voyez comment ils sont, ces 3-4 dessins?
C'est pas les dessins qui ont été exposés, là, au Louvre, hein, récemment?
Si, je crois.
Parce que je vois, alors j'ai
c'est
j'ai
toute
été
la série,
vite,
c'est toute
mais,
la série de la fin, il y en a 3 ou 4, et vous avez le Christ qui est sur un crucifix,
oui.
et la
oui.
croix est faite avec des traits assez forts,
oui.
qui s'entrecroisent d'ailleurs. Et les personnages sur les côtés sont au contraire faits extrêmement flous, on les lit très peu, c'est presque des silhouettes, c'est fait avec presque rien. Je dois dire que c'est sans doute les dessins qui m'épatent le plus, ces dessins-là. Mais par cette justesse impeccable de la proportion, mais pas dans une manière.
Et pourtant, ces proportions, quand on les voit chez Michel-Ange dans les fresques, tout ça, c'est pas du tout la même chose.
Ben non, parce que c'est un aboutissement, là. On dirait qu'il a fait toute sa vie pour faire ça. Si vous voulez, c'est comme les dernières Pietà, c'est exactement le...
Ah, ça tombe impeccable.
Oui, mais dans le sentiment, pas par le... Justement, pas par la ligne, héhé. C'est dans le sentiment que la proportion se matérialise. C'est une sorte de proportion extrêmement affective, extrêmement ressentie, qui n'a plus rien de mathématique, mais c'est quand même de la proportion. C'est ça que j'aime. Et c'est parfait comme proportion, c'est impeccable. C'est renversant de puissance. On dirait que ces dessins, ils peuvent faire trembler la terre. D'ailleurs, il y a une sorte de tremblement dedans.
Oui, c'est vrai. Oui, dans le...
Il y a un tremblement.
Dans le tracé, on sent...
C'est tellurique.
Oui.
Ils sont telluriques. Donc voilà, ça m'emballe tout à fait.
On parle des dessins de Matisse beaucoup en ce moment.
Oui, mais Matisse, moi, j'ai jamais réussi à rentrer dans l'œuvre de Matisse, sauf dans les papiers collés de la fin, que j'aime beaucoup. Les papiers collés, pour moi, il y a une évidence, c'est une chose tout à fait magnifique. Mais tout Matisse avant, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette œuvre. C'est comme si c'était un monde qui n'est pas le mien, avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est bizarre, d'ailleurs. Et ça m'a toujours fait ça. Pourtant, c'est un dessinateur absolument extraordinaire.
Et les dessins de Rodin ?
Alors, les dessins de Rodin, moi, j'aime beaucoup Rodin. J'ai jamais accroché plus avec ses dessins. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ouais. J'ai jamais accroché.
Comme il était sculpteur
Oui, mais ça ne m'a jamais touché, ses dessins. Non.
Et d'artistes très contemporains, plus proches de nous dans le temps ?
Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le dessin de Henri Moore. Je trouve que c'est un très grand dessinateur, un très grand graveur aussi. J'aime beaucoup son abord du dessin. Mais c'est un abord, alors là, très très sculpteur. On ne peut plus. Je trouve que c'est un très grand dessinateur.
Vous avez le nom d'une œuvre au dessin qu'on pourrait utiliser plein.
Ben moi, ce que j'aime surtout chez lui, c'est les gravures. Toute son œuvre gravée, je la trouve magnifique.
Quels sont les dessins auxquels vous êtes particulièrement sensible et dont vous voudriez nous parler? Quel dessin aimez-vous?
J'aime beaucoup, par exemple, les petits dessins que Mondrian a fait comme étude pour ses tableaux, où il cherche, sur des tout petits formats, la proportion de ses tableaux. Il est cherché en tout petit aussi, et puis le trait. On se rend bien compte là de ce que c'est que le dessin, c'est qu'en fait, il cherche sa ligne jamais mentalement. Il la cherche d'une manière totalement affective, totalement sensible, totalement... vibrante, et sa ligne n'est que l'aboutissement de ces espaces. Ce sont des espaces aussi qui sont vécus et qui adviennent de cette manière. C'est une géométrie de l'âme, c'est pas une géométrie mentale. C'est ça que j'aime bien. dans le dessin. Et vous avez ça dans toute la manière dont Mondrian cherche ses formes, enfin ses espaces. Vous avez ça évidemment chez Cézanne, dans toutes les aquarelles de Cézanne aussi. C'est, toutes ces choses, je les aime bien.
Donc on aura compris que c'est une approche vraiment intérieure.
Oh bah oui, bah sinon c'est pas amusant. Sinon ça
au point que vous me disiez tout à l'heure que vous aviez une approche du dedans de la forme. Non, je ne vais pas le redire. Que c'était
oui,
par
l'approche, je la prends par... Je ne prends jamais les choses par le contour, je les prends par le dedans de la forme, par le modelé. Voilà, par le modelé.
Merci.
Bah de rien.